L'exposition au musée basque de Bayonne du premier ouvrage imprimé en basque a représenté un événement exceptionnel à plus d'un titre, avec notamment l'organisation de rencontres autour de Linguae Vasconum Primitiae de Bernat Etchepare. Lors de la journée du 22 novembre 2025, organisée à la mairie de Bayonne par le Musée Basque, plusieurs spécialistes ont partagé leur expertise, notamment François Pic, bibliographe spécialisé en occitan. Avant d'écouter François Pic, écoutons la présentation qu'en fait Audrey Farabos.
Donc François Pic, né en 1954 à Bordeaux, où il s'est formé, fut bibliothécaire de 1976 à 2020, spécialisé en domaine occitan. Il a successivement dirigé le Centre international de documentation occitane à Béziers, préfiguré puis créé l'Institut occitan à Pau, enfin développé le Centre de ressources occitanes et méridionales à Toulouse. En tant que bibliographe, il s'attache depuis 1976 à établir la bibliographie générale de l'écrit en occitan du XVe au XXIe siècle par des dépouillements systématiques de bibliothèques publiques et privées à travers l'Europe, puis dans de nombreuses publications, articles, livres et contributions diverses. Titulaire d'un DEA d'études romanes de l'Université de Montpellier, puis docteur en romanistique de l'Université de Vienne en Autriche, il fut chargé de cours de méthodologie de la recherche à l'Université de Pau et des Pays de la Dour en 1999-2001, puis chargé d'enseignement en histoire culturelle occitane à l'Université Toulouse-Jean Jaurès de 2005 à 2020. À partir des années 80, il a participé à la fondation puis au fonctionnement de diverses structures de recherche, dont l'Association internationale d'études occitanes et le Centre d'études sur la littérature occitane, organisé un grand nombre d'événements scientifiques, colloques et expositions, dirigé des ouvrages collectifs, édité ou co-dirigé des collections pour le compte de divers éditeurs. Il ne cesse d'inventorier, d'écrire, rassembler, conserver et transmettre un patrimoine écrit occitan, très largement ignoré parce que presque invisible, fortement méprisé parce que soi-disant régional et presque effacé parfois. Je vous laisse la parole.
Egunon, bonjour. C'est à peu près le seul mot de basque que je serais capable de prononcer. Je le prononce volontiers. Comme le vient de le suggérer la présentation qui a été faite de ma personne, je n'ai aucune compétence en domaine basque. Ne lisant pas la langue, ne la parlant pas, ne la comprenant pas, c'est par toutes sortes d'intermédiaires que je m'y intéresse, mais je m'y intéresse fortement. Et c'est à titre bien plus de voisin occitan, donc, et de lecteur extérieur ou de curieux, que j'ai été associé à ces manifestations. Néanmoins, je m'interroge depuis très longtemps sur le statut de tous ces écrits et plus encore les imprimés de toutes ces langues de France. C'est ainsi qu'on les désigne, le basque, l'occitan et quelques autres. Donc c'est autour de cet objet que j'ai l'intention de néanmoins de vous parler, mais je le ferai, je viens de le dire, d'un point de vue extérieur, et je ne parlerai de ce livre que de sous les différents angles par lesquels il se présente à moi. Néanmoins, j'en connais et j'en mesure tout le caractère et tous les caractères au pluriel exceptionnels. Cela a vraisemblablement déjà été dit et je vais peut-être répéter bien des choses que vous savez ou qui ont déjà été dites. Mais ce livre est réellement exceptionnel, non pas néanmoins, c'est un des aspects, non pas par le fait qu'il est le premier, qu'il n'en demeure qu'un seul exemplaire connu, mais par son contenu et la position qu'il occupe dans l'histoire de l'écrit et de la culture basque. Premier connu, cela suggère immédiatement pour moi, peut-être n'y reviendrai-je pas, premier connu suggère qu'il pourrait en exister d'autres avant lui. Je l'ai mesuré personnellement dans le domaine de l'écrit en occitan. On est parfois surpris par toutes les découvertes ou les retrouvailles que l'on peut effectuer et qui n'étaient jusqu'à présent pas portées à la connaissance. Il ne me paraît pas du tout incertain, au bout de quelques décennies de recherches bibliographiques, que vous puissiez un jour ou l'autre retrouver un écrit, et plus particulièrement un écrit imprimé en basque, dans quelques bibliothèques, mais peut-être plus dans quelques liasses de ces innombrables archives publiques ou privées qui n'ont pas encore été dépouillées, cataloguées, déficelées pour un certain nombre d'entre elles. Et là, les exemples, au moins dans le domaine occitan, sont légion et encore très, très récents. Donc mon propos portera essentiellement sur la réalité matérielle de l'objet exposé sous vos yeux et que je pense que tout le monde est allé voir peut-être même à plusieurs reprises déjà, au musée basque. Je m'attacherai donc à des éléments extérieurs et à des éléments factuels. Je ne pénétrerai pas du tout dans le texte en basque, pour la raison que je vous ai dit initialement. Je voudrais quand même rappeler sa découverte, est somme toute assez récente. Si l'on s'en tient au récit qui en est fait, c'est vers 1847, que l'historien et philologue médiéviste Francisque Michel, bien connu pour quantité d'autres travaux, a retrouvé cet ouvrage-là dans les collections de la Bibliothèque nationale de l'époque, donc en 1847, et qu'il la signala à ses collègues basquisants, et qu'il la signala notamment, je crois bien, à Julien Vinzon, qui en fut le premier informé. Cela mériterait, au-delà de la réapparition et de la redécouverte de ce livre, cela mériterait de récapituler la quantité de travaux qui a été immédiatement entreprise et qui, depuis donc le milieu du XIXe siècle, n'a cessé de se développer. Je crois avoir compris qu'était évoqué le nom de quelques chercheurs contemporains comme Aurélien Arcocha, qui a consacré plusieurs écrits, plusieurs articles, et qui a fortement enseigné autour de cet ouvrage-là et de cette œuvre littéraire-là. Il serait intéressant, me semble-t-il, et je n'ai peut-être pas su en trouver trace, il serait intéressant de retracer cette abondante succession de travaux qui lui ont été consacrés ici même et bien loin, je crois, du Pays basque aussi. C'est une chose qui a beaucoup passionné. Pour ma part, je n'ai eu accès, avant de voir l'ouvrage sous vitrine, je n'y ai eu accès que par l'édition toute récente, somme toute de 1995, par l'Académie basque, qui m'a fort heureusement permis de pénétrer le texte de diverses manières, puisqu'il contient 5 traductions, anglais, allemand, français, italien, espagnol. Donc j'avais là, et c'est par ce moyen-là que j'ai approché l'œuvre originale qui m'est, je le répète, inaccessible malheureusement. Grâce aussi à l'avant-propos de Jean Richelard et à la longue préface de Patxi Altuna dans ce bel ouvrage. En préambule, je voudrais, et c'est l'objet du premier document qui vous a été distribué, je voudrais très brièvement évoquer le contexte linguistique dans lequel ce volume apparaît, donc vers 1545. 1545, je pense que ça a été rappelé, tout le monde le sait, je ne vais pas m'apesantir, nous sommes ici hors de France. La France est encore extrêmement loin. On est loin de l'hexagone que nous connaissons actuellement, encore moins de la France coloniale du XIXe ou des territoires d'outre-mer du XXe siècle. Le Pays basque est totalement à l'extérieur de ce, de ces propriétés royales dont vous avez un petit schéma. C'est le seul dont j'ai pu disposer, la France de Louis XI. C'est l'État, grosso modo, dans lequel la France est encore au tout début du XVIe siècle, quand paraît le Linguae Vascum Primitiae. Donc je passe rapidement sur ces données linguistiques que vous les connaissez fort bien. Le basque est présent sur ce territoire-là depuis une période non précisable. La seule chose que je peux préciser, c'est que cela fait vraisemblablement des siècles que l'on parle cette langue sur ce territoire. Et cela m'a amené à réfléchir au titre même de l'ouvrage, « Prémices de la langue basque ». Non, ce livre-là n'est très certainement pas les premiers pas de la langue basque sur ce territoire. J'y reviendrai jusqu'à la conclusion. Ce livre-là sont les premiers pas de la langue basque hors du territoire, grâce au support que vous, découvrez sous vitrine. Ce ne sont donc pas les prémices. Cela fait des siècles que l'on parle basque et que le basque est la langue de ce territoire. Le français est loin de l'être encore. Le latin l'est toujours un petit peu. On va l'évoquer, mais ça, c'est d'une manière naturelle. Le latin est la langue européenne, de cette époque, que ça soit dans le domaine, religieux, dans le domaine juridique, dans le domaine scientifique. Le latin est la langue commune. Depuis la romanisation, la langue commune de tout cet espace d'Europe occidentale. Mais le basque est bien la langue totale, la langue quotidienne, la langue largement partagée dans tous les niveaux de la société basque de l'époque. Donc inutile de prolonger trop. Nous sommes en 1545, à peine quelques années après l'ordonnance, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, mais ce n'est pas en 5-6 ans que son application, donc imposant l'usage de la langue française dans les textes administratifs et dans les textes officiels, ce n'est pas 5-6 ans après son édiction que cette ordonnance peut avoir quelque effet. Et donc, ce n'est, elle ne renforce ou elle ne développe la présence du français dans cette partie du territoire que de manière encore tout à fait infime. On sait que à toutes époques, les décrets, les ordonnances, les lois ne mettent qu'un temps considérable à se diffuser et à s'appliquer, dans les domaines les plus variés de la vie. Je passe rapidement sur cet aspect strictement linguistique et sociolinguistique. Et je voudrais tout de suite en venir à l'aspect qui me paraît beaucoup plus décisif, c'est celui du contexte matériel dans lequel ce livre apparaît. Ce livre donc est dit être le premier imprimé en langue basque, imprimé c'est-à-dire bénéficiant en 1545 encore d'une toute nouvelle invention. Cela ne fait à peine que quelques décennies, et c'est l'objet de cette carte ici sur le document. L'imprimerie est née à peine quelques décennies plus tôt, vers 1450-55, dans cette ville de Mayence, sur les bords du Neckar, dans l'actuelle Allemagne. Et ce n'est que très, non pas lentement, mais très progressivement, que cette technologie se diffuse. Et c'est réellement ce que cherche à restituer cette présentation en cercle concentrique. Ce n'est que très progressivement qu'elle se diffuse dans les dernières décennies du XVe siècle et premières du XVIe siècle. Elle le fait essentiellement à la faveur des besoins exprimés par deux mondes, deux secteurs de la société. Le monde ecclésiastique, d'une part, c'est-à-dire les grands évêques et archevêques d'Europe, éprouvent le besoin d'utiliser l'imprimerie pour reproduire et diffuser les textes propre à la pratique, religieuse, et d'autre part, les futures universités, qu'on ne nomme pas tout à fait encore universités, mais à la faveur des besoins exprimés par les collèges. Ces collèges, l'un des plus célèbres, qui d'ailleurs permettra l'introduction de l'imprimerie à Paris, par exemple, c'est vers 1470, le collège de la Sorbonne, qui est le premier à solliciter la venue de professionnels de la typographie. J'y reviendrai peut-être, ces personnages qui se sont formés donc du côté de Mayence et qui progressivement, par petits sauts successifs, se sont établis dans quantité de villes d'Europe. Pour bien mesurer et comprendre ce procédé technique extrêmement particulier et particulièrement nouveau qu'est l'art typographique, l'imprimerie, j'ai eu la chance, et je vous la suggère si vous ne l'avez éprouvé, de bénéficier de quelques visites de lieux, certes un peu éloignés de Bayonne et du Pays Basque, mais de lieux totalement consacrés à cet art typographique. Je pense avant toute chose au port d'Anvers, qui a la chance, la ville d'Anvers, de conserver un extraordinaire lieu totalement préservé, qui est l'atelier d'imprimerie d'un des plus grands typographes du début du XVIe siècle, qui est Christophe Plantin. Vous avez donc à Amsterdam, et ce sont des vues de cet atelier de typographie qui sont plus ou moins méchamment reproduits ici en photographie. C'est un lieu extraordinaire qui vous permet d'emblée de replonger dans l'époque et surtout de découvrir ce matériel, cet outillage, non pas complexe, mais non pas compliqué, mais complexe tout de même, qui permet de fabriquer des caractères d'imprimerie, de les organiser de manière à ce qu'ils parviennent à imprimer les pages d'un livre. Je ne vais pas, parce que le temps passe trop vite, je ne vais pas multiplier les détails. Je voudrais vous suggérer néanmoins qu'à partir de feuilles de papier, qui est donc le support matériel premier de l'imprimerie, à partir de feuilles de papier fabriquées plutôt dans des moulins à papier, ils s'en trouvaient à peu près dans toutes les régions du pays. Je pense que les plus proches ici devaient être soit du côté sud, Basque Sud, soit du côté du Périgord, de l'Angoumois, ou plus loin de l'Auvergne. Et là, vous avez encore peut-être à visiter un jour, si vous en avez l'occasion, un véritable moulin à papier parfaitement conservé et en état de fonctionnement, qui est le moulin Richard de Bas à Ambert. Là, vous y découvrirez très physiquement comment l'on produit encore, à la manière du XVe, XVIe siècle, ces feuilles de papier, c'est-à-dire ces feuilles d'un format particulier. Là, je vous ai amené un exemple sur lequel je reviendrai, qui est du tout début du XVIe siècle. Vous avez, donc ces feuilles de papier imprimées à partir de chiffons, généralement, qui prennent ce format et qui, à l'aide donc de caractères d'imprimerie disposés de manière tout à fait particulière, je passe rapidement, sont imprimées, ces pages sont imprimées recto verso pour former, un peu comme le sera le Linguae Vasconum, pour former des pages recto verso qui, pliées, formeront ensuite des petites brochures. Celle-ci est formée de 3 cahiers et le Linguae Vasconum est formé de 7 cahiers qui ne sont autres que des feuilles de papier du format initial que je vous montrais, pliées à 2 reprises, multipliées par 7 exemplaires, et vous avez là le support tout à fait modeste, mais réel, du Linguae Vasconum Primitiae. 7 feuillets à ce format in quarto, composés donc, imprimés pour ce qui est du Linguae Vasconum Primitiae, imprimés à J'y reviendrai tout à l'heure, oui, imprimé à Bordeaux. Mais je voudrais partir de cet exemplaire qui est sous vos yeux pour rappeler, il est donc conservé à la Bibliothèque nationale, et c'est le seul exemplaire connu. Beaucoup de chercheurs, les plus grands bibliographes, les plus grands bibliophiles, les plus grands philologues, en ont cherché de tous côtés d'autres exemplaires. Ils n'y sont parvenus, que ce soit les grands bibliophiles comme Louis-Lucien Bonaparte, Julien Vinzon lui-même, Jean-Henri Burgaud-Desmarais et quantité d'autres. Personne n'a pu remettre la main, ni même sur un fragment d'un autre exemplaire de cet ouvrage. Alors ça pose d'emblée une question, mais pour laquelle bien sûr je n'ai aucune réponse, mais c'est bien une quantité de questions qui se posent et un fort réduit nombre de réponses, que pour ma part je ne peux en apporter aucune. L'un des problèmes qui reste entier est le tirage supposé, probable, de cet ouvrage. À combien d'exemplaires, diable, a-t-il pu être tiré? C'est excessivement difficile. Nous ne possédons aucune archive, aucun bon de commande, aucun préfet, aucun élément, ni parmi les archives de l'imprimeur, ni parmi les archives de l'auteur, ni parmi aucune archive historique, locale ou extérieure, aucun élément. Aucun élément pour imaginer tout de même que, compte tenu du prix du papier, du prix de ces feuilles de papier, dont je vous rappelle qu'il en fallait déjà 7 pour imprimer le Linguae, aucune précision, parce qu'on ne connaît aucune demande, c'est aucun besoin. À combien fallait-il commercialement imprimer cet ouvrage? Quel était le public? Quel était le destinataire ou les destinataires de cet ouvrage? Nous n'avons véritablement aucun élément. C'est véritablement à nous, par nos questionnements, de reconstituer le contexte dans lequel ce livre a paru. Donc, c'est tout le problème de ces livres uniques. Et ce n'est, par exemple, pas le problème qui se pose pour plus ou moins le second livre imprimé connu, le fameux Novum Testamentum de Lissaragle. On en possède, et on en retrouve encore, d'ailleurs, quelques exemplaires plus ou moins complets dans des bibliothèques publiques ou privées. Donc, le problème ne se pose pas pour les livres dont on a plusieurs exemplaires. On peut en mesurer rapidement le lectorat, on peut savoir par quel chemin ils se sont conservés. Là, ce volume-là, on sait qu'il a réapparu en 1847. Il est recouvert d'une reliure effectivement particulière qui ne me paraît pas somptueuse au point de la considérer comme une véritable reliure de princière, comme cela a pu être suggéré. C'est une reliure d'une qualité, pour l'époque, relativement modeste. Certes, elle est de belle apparence, elle tranche vis-à-vis de ce qui était habituellement la couverture des livres imprimés, c'est-à-dire elle tranche par rapport à des livres reliés en parchemin, ou reliés en peau de vélin. Elle est en cuir, elle est un veau assez respectable. Elle est ornée de dorures relativement maladroites, si l'on considère quelques beaux exemplaires princiers de reliture princière de ce début du XVIe siècle. Et elle porte des armes, donc les armes d'un membre de la famille des Condé, qui est effectivement une grande famille princière. L'attribution en est fort ancienne, mais pour ma part, l'attribution qui en est faite ne me convient pas tout à fait au point de vue date. J'aurais tendance, utilisant les travaux des héraldistes les plus récents, j'aurais tendance à la repousser dans le temps de quelques décennies, car elle n'appartient pas, elle n'est pas affublée d'une barre transversale intégrale, mais d'un simple petit bâton, comme disent les héraldistes, et donc elle n'appartiendrait pas à la génération des Condés à Louis Ier, comme cela a été évoqué, mais bien plus tardivement à Henri II. Henri II, qui est le premier à avoir utilisé, voilà, ces armes-ci. Ce qui m'amène à penser, ne s'agissant pas d'une véritable reliure de prestige princier, qu'il s'agit peut-être beaucoup plus d'un exemplaire relié pour être offert au prince de Condé, à ce prince qui, donc, à partir de 1588, donc plus tardivement que l'époque de parution, puisque c'est à partir de 1588 que ces armes-là existent et sont actuellement, je veux dire, très précisément repérées. Ce n'est plus donc en 1545 que le livre aurait été immédiatement offert à l'un des Condés ou qu'il aurait été acquis par l'un des Condés qui y aurait apposé ses armes et aurait rangé le livre dans sa bibliothèque. Car de la bibliothèque des Condés, de la famille de Condé, on ne conserve malheureusement pas beaucoup de précisions. Le musée d'Écouen, qui est assez fortement consacré aux biens de cette famille, au nord de la région parisienne, ne conserve pas de traces véritables d'une bibliothèque personnelle à proprement parler. Il existe quelques très très rares exemplaires reliés. La plupart le sont précisément avec ces armes de la fin du XVIe siècle, 1588 et années suivantes, et non plus les armes de l'époque de précisément 1546 à 1588, première grande période de la famille des Condés. Mais bon, ceci n'étant pas spécialiste du tout d'héraldique, je me suis fié aux travaux les plus récents et c'est une hypothèse, une suggestion que très, très modestement j'apporte au débat. J'en viens à présent quand même aux livres et aux éléments qui me permettent d'apprécier son originalité et ses particularités. L'ouvrage, dont vous l'avez vu, ouvert à la page, je pense, des poésies finales, des poésies contrapasses, si je ne m'abuse, je partirai pour ma part de la page de titre. La page de titre, qui présente une des caractéristiques brièvement évoquées tout à l'heure, c'est d'être rédigé dans la langue qui est la langue, je dirais, de communication la plus universelle en Europe occidentale à l'époque. Elle est rédigée en latin. Chose à noter, elle n'est pas rédigée en basque. Elle est rédigée en latin, le but étant, par ce choix de la langue latine, de s'adresser à l'extérieur du Pays basque au plus grand nombre de lecteurs et de locuteurs. Attirer l'attention sur un objet, les prémices de la langue basque, dans la langue la plus répandue à l'époque, la langue latine. C'est aussi le cas de l'avertissement en latin qui est au verso de la page de titre, en page 2, en deuxième page. Cet avertissement est également rédigé en latin et a pour but d'expliciter un des choix graphiques qui a été fait pour imprimer l'ouvrage. Il s'agit de chercher, en quatre lignes à peine, d'expliquer au futur lecteur que telle lettre se lit de telle manière et que telle autre lettre se lit de telle manière et non pas de telle manière. Et tout ceci est également en latin. Donc une langue a priori la plus compréhensible qui permet de tenter de pénétrer alors ensuite dans le corps du texte qui est intégralement en basque jusqu'à la dernière page, les deux dernières pages, qui, elles, sont, de manière non pas surprenante encore, mais qui sont dans une troisième langue, après le corps entier de l'ouvrage, on en vient à une page qui nous permet de comprendre et de découvrir beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est la page qui contient les extraits du registre du Parlement. C'est-à-dire qu'il contient en français, troisième langue de cet ouvrage, qui contient le texte de l'arrêté du Parlement qui autorise l'imprimeur François Morpin à Bordeaux, et tout ceci est précisé, je ne déduis rien, je n'ai fait que lire cet extrait des registres du Parlement. C'est là que est évoquée une date, la date d'avril 1545. C'est la date à laquelle le Parlement autorise François Maurepin à publier, malheureusement en un nombre d'exemplaires non précisé, alors que parfois ce type d'éléments, ce type d'extrait des registres du Parlement contient une précision du tirage auquel on demande à l'imprimeur d'imprimer l'ouvrage à fabriquer. Là, malheureusement, il n'y a aucune précision. Mais nous avons donc la date d'avril 1545, le nom de l'imprimeur, François Maurepin, bordelais. François Maurepin, que l'on connaît par ailleurs, là, les quelques archives demeurent sur ce personnage qui a été apprenti puis ouvrier chez l'un des premiers typographes bordelais, un certain Jean Guyard, et qui ensuite donc a travaillé pendant une quarantaine d'années avant que sa veuve ne prenne la suite de l'atelier. Donc c'est un personnage connu, un des premiers typographes bordelais, puisque la carte ne le précise peut-être pas. Si, 1519, c'est en 1519, donc presque 70 ans après l'invention de l'imprimerie, que l'imprimerie arrive à Bordeaux. Vous voyez que le temps a été quand même relativement long pour que le collège de Guyenne, vraisemblablement, ce collège universitaire bordelais, fasse appel pour ses propres besoins d'enseignement. Et on sait qu'à l'époque, il a publié... Ce Jean Guyard a publié pour le collège de Guyenne un certain nombre de manuels, notamment de grammaire, d'outils d'apprentissage. On est au tout début de la période d'imprimerie à Bordeaux. Donc 1519, 1545, un peu plus de 20 ans après l'introduction de l'imprimerie dans la ville apparemment la plus proche de Bayonne ou la plus proche du Pays Basque, puisque... L'imprimerie n'est pas encore introduite à Bayonne à cette époque-là. Il a été fait appel, peut-être pour un certain nombre d'autres raisons aussi, de relations personnelles, ça j'y reviendrai peut-être, entre le dédicataire de l'ouvrage et l'imprimeur bordelais, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cet extrait des registres du département est vraiment le lieu de tout notre apprentissage à nous. Je ne vous lis pas les extraits de cet extrait des registres du Parlement. Il précise néanmoins que Maurepin, l'imprimeur, a le privilège d'imprimer cet ouvrage-là à l'exclusion de tout autre typographe, de tout autre imprimeur typographe. C'est donc un privilège commercial. Le Parlement lui donne l'autorisation et le devoir d'imprimer ce livre et lui donne la possibilité d'être le seul à le commercialiser pendant 3 ans. Ce qui veut dire que vraisemblablement à partir d'avril 1545, Maurepin s'est mis au travail et a publié très vraisemblablement dans les mois qui ont suivi pour bénéficier des 3 années les plus complètes pour vendre l'ouvrage, parce que n'oublions pas, c'est un aspect peut-être sur lequel nous reviendrons, qu'il s'agit d'un objet à commercialiser, d'un objet à vendre, ne serait-ce que pour rentrer dans tous les frais d'impression. Parce que du monde, je l'évoquerai peut-être aussi, du monde, beaucoup de monde a travaillé sur cet ouvrage-là. Certes, l'auteur l'a écrit, un intermédiaire est certainement, le dédicataire est certainement intervenu à Bordeaux auprès de l'imprimeur Maurepin, mais il y a eu aussi le fabricant de papier. Il y a eu le fondeur de caractère, il y a eu le compositeur qui, un à un, a pris les caractères pour composer en caractère de plomb le texte en basque, dont vraisemblablement, c'est aussi un des aspects sur lesquels nous ne pouvons faire que des hypothèses, dont vraisemblablement il connaissait la langue. Ce typographe travaillant à Bordeaux, ce compositeur, levant les lettres, comme l'on dit, de la casse vers la forme, devait vraisemblablement connaître le texte. On ne peut pas passer d'un manuscrit, qu'il soit bien écrit ou mal écrit, on ne peut guère passer d'un manuscrit à une composition typographique sans connaître la langue dans laquelle on travaille. Existait-il chez Maurepin des compositeurs ou des typographes, les prototypographes bascophones, cela paraît très vraisemblable, mais pour moi, rien d'étonnant, parce que les liens et la diffusion de la population basque dans l'espace aquitain, à cette époque-là, pour des questions variées, dont la première étant pour des raisons de travail, le personnel basque, pouvait très bien aller se former chez un typographe bordelais, y être à son tour apprenti, composer les ouvrages que son patron lui donnait à composer, et puis plus tard venir ici former ou ouvrir un atelier d'imprimerie sur Bayonne ou ailleurs au Pays basque. Tout cela ne me pose strictement aucun problème. Les questions de compétences linguistiques, dans la mesure où la langue, et la langue du lieu, il n'y a pas, à mon avis, question à se poser. D'autant moins que les spécialistes ont quand même considéré que l'ouvrage était parfaitement composé, qu'il y avait fort peu, je laisse la parole aux philologues, fort peu de coquilles d'imprimerie, que l'ouvrage était, d'une grande qualité philologique. Donc, cela veut dire que les gens qui l'ont fabriqué, au moins celui qui l'a composé, car ensuite, ceux qui l'ont imprimé sur ces fameuses presses, presses en bois, presses typographiques, que l'on voit fonctionner dans les, notamment dans les ateliers du musée Plantin à Anvers, par parenthèse, beaucoup plus près de vous, je vous conseille aussi, le cas échéant, la visite d'un autre lieu qui est tout à fait efficace pour vous, pour se faire une idée de l'époque, c'est le musée de l'imprimerie de Lyon. Il y a dans le cœur de Lyon un musée de l'imprimerie qui n'a pas encore un siècle d'existence, qui a été fondé par un imprimeur lyonnais et l'un des plus grands historiens de l'imprimerie en France dans les années 50, qui est un grand nom à connaître et sur lequel vous pouvez lire des choses absolument décisives en matière d'histoire de l'imprimerie. C'était Monsieur Henri-Jean Martin, qui a été un très grand historien de l'imprimerie et qui a formé un nombre incalculable de conservateurs de bibliothèques et de bibliothécaires. C'était quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'histoire de l'imprimerie et notamment qui a fondé, avec un typographe lyonnais, qui a fondé ce magnifique musée de l'imprimerie qui est en plein cœur de Lyon et dans le quartier précisément où, dans les toutes fins du XVe siècle, a été introduite l'imprimerie. Donc c'est dans ce cœur de Lyon et dans une de ces maisons où ont commencé à fonctionner les premiers typographes que vous pourriez découvrir ce musée. Et je vous y engage fortement, il en existe malheureusement pas de plus proche. Et si le sujet vous intéressait, vous pourriez constater, à travers un troisième lieu qui est encore plus loin, vous pourriez constater que cette technique typographique n'a pas évolué pendant plusieurs siècles. Si vous vous rendez à Parme, c'est peut-être original pour des habitants de Bayonne d'aller dans une ville productrice de jambon, mais allez-y pour visiter le musée Bodoni. C'est un musée où vous constaterez que l'art typographique n'a pas, non pas évolué, mais n'a pas fondamentalement changé. On imprime dans le courant du XVIIIe siècle avec quasiment les mêmes outils, les mêmes presses, avec quelques petits arrangements, qu'au moment de l'installation et de la fondation de l'imprimerie à la fin du XVe et début du XVIe siècle. Donc ce sont des lieux suffisamment rares pour que l'on y porte attention et ils méritent le déplacement. Voilà, je reviens sur l'ouvrage. J'ai évoqué brièvement tout à l'heure, et je vais achever par là, j'évoquais quelques personnages parmi les premiers bibliographes ou bibliophiles s'étant intéressés à cet ouvrage-là. J'y reviens parce que ce sont trois personnages tout à fait étonnants que vous connaissez, dont les noms vous sont familiers. J'ai cité Louis-Lucien Bonaparte, qui toute sa vie a cherché cet ouvrage-là, qui n'en a jamais trouvé d'autre, et Dieu sait que sa bibliothèque est riche. Elle contient presque plusieurs dizaines de milliers de livres, et elle est quasiment intégralement conservée dans une énorme bibliothèque de la ville de Chicago, où tout le fond basque est une véritable merveille. Mais il ne possédait pas le Linguae Vasconum Primitiae. De même, un de ses collègues et amis, puisque ces gens-là se connaissaient et se fréquentaient, le philologue, poète et bibliophile Saint-Onger, Jean-Henri Burgaud-Desmarais, n'a jamais pu mettre la main sur un deuxième exemplaire du Linguae. Lui aussi possédait une extraordinaire bibliothèque basque, avec parfois plusieurs exemplaires des plus précieux livres. Il en a sauvegardé une quantité, qu'il a été le premier à repérer et à rassembler. Et sa bibliothèque a été dispersée vers 1873, au moment de son décès, mais une belle partie du fonds a été acquise par une des plus grandes bibliothèques de l'époque, la bibliothèque du British Museum à l'époque. Donc vous avez un fonds basque au British Museum qui est parfaitement conservé et accessible. Et puis vous avez bien sûr, troisième nom qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est celui de Julien Vinzon, dont ce Linguae est la première notice de son extraordinaire essai de bibliographie de la langue basque, qui est un monument, 1891-1898, deux volumes d'une précision tout à fait extraordinaire, je dirais, même pour l'époque, c'est déjà, on sent une volonté, je veux dire, de précision qui est exceptionnelle. Et lui non plus, je veux dire, n'a pu faire autrement que de consulter le seul exemplaire qui est merveilleusement disponible à notre regard. Je vais achever. Je voudrais revenir sur le caractère exceptionnel de ce livre, car bien que ne pratiquant pas la langue basque, j'ai eu, par toutes ces traductions disponibles que j'ai évoquées, par l'édition de 1995, j'ai quand même constaté qu'on était dans un livre qui, par son contenu, est véritablement exceptionnel. Pour ce qui est du domaine que je connais un petit peu mieux, qui est le domaine de la littérature occitane, je ne connais pas, il n'existe pas, de livre qui ait cette force, qui contienne cette démarche, qui est présente finalement d'un bout à l'autre, que ce soit à travers les poésies, et je laisserai parler les intervenants qui vont suivre, que ce soit dans les œuvres, dans les poèmes religieux, dans les poèmes d'amour, ou dans les deux fameux poèmes de la fin de l'ouvrage. Je ne connais pas d'équivalent de manifeste linguistique aussi fort, même de manifeste linguistique tout court, même en français, si l'on lit les textes beaucoup plus tardifs, les textes de tous les grands poètes qui se sont investis pour faire de la langue française une langue de prestige, une langue littéraire, une langue à part entière, que ce soit chez les écrivains occitans, et le seul que qui ait été par ailleurs étudié, donc je parle sous le couvert des historiens de la littérature occitane qui ont étudié, par exemple, les œuvres de Pays de Garros. Pays de Garros a conscience qu'en écrivant en occitan, il fait un acte, de promotion et de revendication linguistique assez fort, mais c'est en 1567, c'est beaucoup plus tardif, d'une certaine manière, et puis il le fait à la demande de la reine Jeanne d'Albret. Donc il le fait dans un contexte où il faut flatter, le pouvoir qui vous a demandé ou qui vous mécène. Tandis que là, on a affaire à un écrivain, somme toute, qui à travers les deux textes finaux, promeut, revendique, porte très haut la langue à travers des poèmes. Je n'ai pu les apprécier une fois de plus qu'à travers les traductions, mais sont d'une modernité stylistique qui est absolument cinglante, poétique, la composition, et je ne juge bien sûr qu'à travers, mais j'ai quand même quatre traductions, anglais, français, italien, espagnol, m'ont permis de comprendre qu'il s'agissait bien de ça. Ces deux poèmes sont d'une force et d'une volonté, tout à fait extraordinaire. Et ce n'est pas pour rien, si j'ai bien compris, qu'ils ont été dernièrement, par rapport à la date de 1545, qu'ils ont été mis en musique et qu'ils ont été chantés en public par un certain nombre des auteurs, compositeurs, interprètes de langue basque de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Donc c'est bien, au-delà de l'aspect exceptionnel de ce livre, aspect matériel, aspect historique, aspect historiographique, c'est encore le premier et le plus ancien connu, c'est peut-être plus, et là je ne suis pas capable d'en dire plus, mais c'est peut-être par son contenu que ce livre est absolument surprenant. Et si les historiens de littérature française ou occitane ou je ne sais, ou espagnole, ont des arguments à opposer ou des exemples, des contre-exemples à proposer, je ne vois pas, en 1545, je ne connais pas, je n'ai feuilleté quelques anthologies, je ne vois pas de poèmes ayant aussi nettement, aussi d'une manière aussi moderne, ayant revendiqué l'efficacité, la beauté, l'humanité de cette langue. Voilà, et c'est par ces mots que je terminerai. Donc nous sommes bien en présence d'un, non pas d'un livre qui entreprend ses premiers pas, mais un livre qui n'a pas fini de marcher, de fonctionner, de faire d'innombrables pas, très ambitieux et sa présence ne fait que renforcer cette dynamique. Voilà, je vous remercie.
Si vous le souhaitez, vous avez un peu de temps quand même pour parler des coutumes. Je vous accorde 5 minutes oui. Pour parler des coutumes.
Effectivement, je n'ai pas parlé des coutumes. Il a été très aimablement ajouté à la vitrine. Il permet de constater, là aussi, sans discussion possible, qu'à la même époque fonctionne dans le lieu une langue encore, qui n'est pas le basque, qui n'est pas le latin, qui n'est pas le français, et qui est tout simplement l'occitan. C'est la langue voisine. Pour moi, il n'y a véritablement rien de surprenant. Et vous le constatez à travers les pages de titres diffusées sur cette photocopie. Cette langue va fonctionner encore longtemps, pendant plusieurs siècles, puisque que ce soit les coutumes de Soul, dont l'exemplaire de la première édition est de 1553, est donc présenté sous vitrine, jusque à la dernière édition connue, mais peut-être en a-t-il existé d'autres, que ce soit jusqu'à la dernière édition connue toute fin du XVIIIe siècle, donc à peine une petite vingtaine d'années avant la Révolution française et l'abandon d'un certain nombre de coutumes d'Ancien Régime, pendant ces 3 siècles, de 1553 à 1769, les coutumes de Soul sont éditées et donc utilisées, lues par tous les juristes, consultes, tous les juristes de la région, sont utilisées dans leurs délibérations, dans leurs analyses, et cela ne pose strictement aucun problème que ces coutumes soient rédigées en langue occitane. De même, et je vous ai mis au verso, la reproduction des pages de titres d'un autre des manuels juridiques en fonction et en exercice sur le lieu. Il s'agit des forts et coutumes de Navarre, qui eux aussi sont de manière continue pendant 3 siècles et jusqu'à la Révolution, sont imprimés en occitan. Et je dirais, j'ai petit à petit pris conscience et pris l'habitude de véritablement ne plus me poser de questions sur la raison de cet usage de l'occitan, car si des livres sont imprimés, c'est que des gens pratiquent ces langues-là. Et je crois qu'il faut banaliser le plus possible l'usage de nos langues régionales. Elles ont été, je crois que ça n'est jamais dit, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre, jusqu'au début du XXe siècle et bien au-delà du début, dans certaines régions, les langues de France étaient intégralement pratiquée, que ce soit dans le cercle familial ou dans l'espace public. Ça a été constaté par tous les linguistes, les sociolinguistes, les historiens, tous les gens qui ont enquêté, les ethnologues, les anthropologues, tout le monde a parfaitement constaté que ces langues-là, et elles fonctionnent encore, je veux dire, grâce à vous, au quotidien, toutes ces langues-là, je crois, sont des évidences pour nous. Ce n'est pas tant le caractère exceptionnel de la langue qui fait le caractère particulier de ce volume. Il est imprimé en basque, mais comme je le crois, cela fait des siècles que l'on parlait basque, hein, en 1545. C'est pas ça la question. Je veux dire, la question, c'est que, à la limite, et l'auteur le dit dans son introduction, il est étonné, il s'étonne que 70 ans après l'invention de l'imprimerie, on n'est pas encore imprimé en basque. Il s'interroge, c'est écrit en toutes lettres, dans la traduction française, mais certainement aussi dans le texte original basque. L'auteur s'étonne, et ce n'est pas une formule par laquelle il flatterait son dédicataire, celui qui certainement a financé ou favorisé de diverses manières la publication. C'est pas du tout pour lui, passer la main dans le dos, comme on dit vulgairement, mais c'est parce que c'est la réalité. Il y a de quoi s'étonner et qu'il n'y ait pas, que l'on ne connaisse pas d'impression antérieure à cet ouvrage-là. Alors il faut aussi lui faire confiance, puisqu'il dit, et là aussi c'est exceptionnel, ça n'existe dans aucun autre imprimé de l'époque, il dit que c'est véritablement le premier livre dans la langue. C'est une phrase qui ne s'est jamais écrite en aucune autre langue. Et même le premier livre en français ne dit pas qu'il est le premier livre en français. C'est assez particulier. Moi, du moins, ça me surprend beaucoup. Mais ça me surprend moins parce que je suis à peu près convaincu, et c'est ce que je disais presque en introduction, que ce livre n'est pas le premier imprimé en basque. Parce que si la langue se parlait au quotidien sur cet espace, peuplé, largement peuplé, et il y a certainement eu, non pas des livres, mais des supports imprimés du type de celui-ci, qui est de 1536, rédigé en occitan et imprimé à Toulouse. Mais il y en a eu très certainement en basque dès la fin du XVe siècle. Car les ecclésiastiques, les hommes de loi, mais surtout les ecclésiastiques, avaient la nécessité de communiquer avec les habitants, de leur faire apprendre des cantiques. Et c'est le cas en Occitan, il y en a en divers coins du territoire, que ça soit à Saint-Flour, dans l'actuel Cantal, que ça soit à Rocamadour, dans l'actuel département du Lot, ou ailleurs, nous connaissons des imprimés en Occitan de ce type-là, une feuille contenant un cantique ou une information particulière, rédigée dans la langue du lieu et destinée à être lue parce qu'affichée à la porte des églises ou des cathédrales, affichée dans des lieux de grand passage, lue par des lecteurs sachant lire, et sachant lire cette langue, mais c'est la langue du lieu, quand on sait lire, on la lit, oralisant cette langue-là pour que d'autres en comprennent le contenu. Tout ceci a été largement, étudié. Quelques preuves en existent et l'on en trouve encore assez régulièrement dans ces fameuses liasses d'archives que j'évoquais, dont les archives départementales françaises sont encore pleines, de documents non exploités, de documents non inventoriés, non catalogués, dans lesquels j'ai eu, au moins pour la matière occitane, très régulièrement, l'occasion de découvrir et de déplier, des supports imprimés qui n'avaient jamais été dépliés avant moi et qui se trouvaient être imprimés. Donc je suis assez confiant sur le fait que l'on puisse trouver des traces de textes imprimés en basque antérieurs au linguae. Voilà.
Nous écoutions François Pic, bibliographe spécialisé en domaine occitan, qui nous parlait du premier livre imprimé en basque, Liguae Vasconum Primitiae de Bernat Etchepare. Une rencontre organisée par le musée basque à Bayonne, à la mairie de Bayonne, le 22 novembre 2025.